sermon, simplement une annonce, surtout pour ceux qui écoutent les sermons sur Internet. Donc, la semaine dernière, j'étais en mission à Besançon, j'avais trois conférences donc, que j'ai placées sur Internet. Je les ai mises sous l'onglet des conférences doctrinales. J'ai mis trois conférences, une sur l'introduction à l'esprit protestant dans les milieux cédévacantistes, c'est-à-dire l'esprit de libre examen. En gros, une tendance qu'on a tous à de garder dans l'Église ce qui nous plaît, ce qui ne nous plaît pas, de rejeter. Donc, j'ai une conférence là-dessus. Une deuxième conférence plus catéchétique sur le péché et ses conséquences. Et une conférence d'introduction à l'œuvre de l'abbé Emmanuel Barbier. Donc, c'est l'introduction à sa grande œuvre sur le catholicisme libéral. Donc, vous avez ces trois conférences. Et sur le site et sur YouTube, pour ceux qui veulent travailler un petit peu, qui ont le temps de travailler. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, eh bien, chers amis, je voudrais un petit peu décortiquer avec vous les deux textes que nous propose la Sainte Église pour ce 23e dimanche après la Pentecôte. D'abord, le texte de l'Évangile selon Saint Matthieu, et puis un texte tiré de l'Épître de Saint Paul aux Philippiens. Il y a bien des richesses dans ces textes. Le texte de Saint Matthieu, d'abord, chapitre 9, donc, nous parle de miracles extraordinaires qu'a fait notre Seigneur. Ou encore la miséricorde extraordinaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et en même temps, on voit la foi de ces gens tout simples à qui il s'adresse. D'abord, le chef de la synagogue qui vient de perdre sa fille. Et il va vers notre Seigneur Jésus-Christ avec grande simplicité et lui dit simplement « Ma fille est morte. Venez lui imposer les mains. » Vous voyez l'acte de foi qu'il fait. Il sait que cet homme a des pouvoirs extraordinaires. Peut-être qu'il n'a pas encore compris que cet homme à qui il parle est le Fils de Dieu, mais il sait qu'il a des pouvoirs extraordinaires. Venez imposer-lui les mains. Et notre Seigneur Jésus-Christ va y aller tout de suite. Il va chasser toutes les pleureuses qui étaient là sur les coutumes de l'époque. Et puis, il va lui imposer les mains, va prendre la petite par la main et va la relever. Et il y a un deuxième miracle d'une femme qui était atteinte d'une hémorragie depuis plus de 12 ans, nous dit l'Évangile. Elle perdait son sang constamment, elle avait dépensé tout son bien à essayer de se soigner, elle n'avait rien obtenu des médecins. Et elle se disait, si j'arrive simplement à toucher ses vêtements, la frange de son vêtement, je serai guéri. Et notre Seigneur Jésus-Christ va l'exaucer, soyez guéri, allez en paix. Et les pères de l'Église qui expliquent tous ces évangiles, justement, expliquent toujours de la même façon, retrouvent toujours les mêmes idées. La maladie corporelle symbolise la maladie spirituelle. Et notre Seigneur Jésus-Christ guérit les maladies corporelles pour bien montrer qu'il a pouvoir aussi sur les maladies spirituelles. Et donc, la femme qui est malade, la jeune fille qui vient de mourir, représente les dégâts que font dans notre âme les péchés mortels. Et notre Seigneur Jésus-Christ a pouvoir sur ces péchés mortels. À partir du moment où il a devant lui un pécheur repentant, notre Seigneur Jésus-Christ va imposer les mains et ensuite prendre l'âme par la main pour la ressusciter, la remonter à la vie surnaturelle. Eh bien, cette imposition des mains, les pères de l'Église expliquent que notre Seigneur Jésus-Christ qui impose des mains, c'est des premières grâces qu'il donne. N'oublions pas que si nous avons le malheur d'être tombés dans le péché mortel, on ne peut pas regretter surnaturellement son péché mortel sans des grâces du bon Dieu, c'est impossible. Il ne faut pas compter sur nos propres forces. Si j'ai malheur d'avoir perdu notre Seigneur Jésus-Christ par le péché mortel, pour pouvoir simplement regretter surnaturellement mon péché, il faut déjà des grâces actuelles. Et le bon Dieu ne refuse jamais ces grâces actuelles. Celui qui les demande avec humilité. Et donc la grâce actuelle qui amène à la contrition, qui amène à l'accusation des péchés, est représentée par cette imposition des mains. Et ensuite, notre Seigneur Jésus-Christ qui prend les mains de la jeune fille qui vient de mourir et qui la tire de son lit de douleur sur lequel le corps reposait déjà dans la mort, eh bien représente cette fois-ci la deuxième étape, à savoir l'absolution sacerdotale. Allez en paix, vos péchés sont pardonnés, je vous ai pardonné tous vos péchés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et la lecture de ces récits évangéliques doit à la fois nous rassurer et en même temps nous placer dans la vertu d'espérance. Et nous aussi, nous sommes malades. Nous aussi, nous avons ces maladies spirituelles. représentée par ces maladies physiques dont parle notre Seigneur, ces maladies spirituelles, d'abord, évidemment, la faiblesse de l'âme. Une âme langourante, une âme langoureuse, une âme qui est toute faible à cause du péché, la répétition du péché. Si je touche simplement la frange de ses vêtements, a dit cette femme, qui va être guérie, je serai guérie. Eh bien, la frange du vêtement, c'est représenté justement par la frange du vêtement du prêtre, si vous voulez, du vêtement sacerdotal. Si je m'approche de l'étole, symbole du pouvoir du prêtre, eh bien, je serai guéri, parce que ce prêtre représente notre Seigneur Jésus-Christ, a reçu du bon Dieu le pouvoir de pardonner les péchés. Et même si je suis plus que malade, si je suis mourante, si je suis même déjà morte, le bon Dieu a le pouvoir de rattraper la mort spirituelle et de ressusciter l'âme, de la faire passer de la mort spirituelle à la vie spirituelle, par justement l'application des mérites de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais aussi un petit peu vous parler de certains de ces textes magnifiques de Saint Paul. Saint Paul aux Philippiens. Il y a des choses extraordinaires dans ce texte de Saint Paul. Saint Paul parle à ces chrétiens de Philippe et il donne un exemple extraordinaire. Il dit, en parlant à ces gens qui se battent pour rester en état de grâce dans le paganisme de l'époque, il leur dit que nous sommes au paradis dont nous sommes les citoyens. Vous notez que notre Seigneur Jésus-Christ ne dit pas « Nous serons au paradis ». On attendait ça. On n'est pas encore au paradis ici-bas. Et qu'est-ce qu'il veut dire en disant le présent « Nous sommes déjà au paradis, dont nous sommes les citoyens ». Il explique ainsi que quelqu'un qui vit en état de grâce, de même que la mort spirituelle dont parle l'Évangile représente le péché mortel qui tue l'âme, au contraire, la vie spirituelle représentée par l'état de grâce transforme cette âme déjà en un petit bout de paradis. Donc si nous avons la foi, gros comme un grain de sève, nous dit notre Seigneur, si nous avons la foi, nous devons comprendre que l'âme en état de grâce a déjà en elle l'habitation de la Sainte Trinité. C'est ça la grâce sanctifiante. Et l'habitation de la Sainte Trinité, ça correspond à quoi? L'habitation de la Sainte Trinité, ça veut dire que je transforme mon âme en une pièce de paradis. Rappelez-vous la coutume des gens du Moyen-Âge qui faisaient la prière du matin, la prière du soir en famille devant le berceau du nouveau-né qui était baptisé. Parce que ce nouveau-né avait une âme tellement pure, purifiée par du péché originel, par le baptême, et donc elle représentait notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, si je suis en état de grâce, j'ai la grâce sanctifiante en moi, j'ai l'habitation en moi de la Sainte Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, et donc mon âme devient une partie du paradis. Même si je suis obligé de vivre dans un monde complètement déboussolé, un monde complètement paganisé, un monde complètement laïcisé, je suis comme une lumière du monde, le sel de la terre, justement parce que j'ai l'état de grâce en moi. Et pourtant, nous dit Saint Paul, il va expliquer ça aux Philippiens, eh bien, nous sommes entourés de gens qui ne goûtent, dit-il, que les choses de la terre. Eh bien, nous, il faut au contraire que nous goûtions les choses du ciel. C'est la prière que nous faisons au début de toutes les conférences, de toutes les exercices, quand on prêche l'exercice Saint-Tiens, on commence toujours chaque conférence par cette prière au Saint-Esprit. Donnez-nous par ce même esprit de goûter ce qui est bien. De goûter non pas ce qui est bien sur le plan corporel, mais de goûter ce qui est bien pour mon âme. Mon Dieu, aide-moi à utiliser mon intelligence, aide-moi à utiliser ma volonté, aide-moi à utiliser mon cœur, aide-moi à utiliser mon affection pour goûter ce qui est bien. De même qu'une âme, qu'un corps qui n'est pas nourri va finir par devenir de plus en plus faible et finir par mourir. De la même façon, il faut faire vivre mon âme. Et donc je dois goûter les choses qui sont bien. Les choses qui sont bonnes pour mon âme, au lieu d'avoir, comme les gens du monde, de n'être attiré, de n'être attiré que par les choses mondaines, les choses du corps, être attiré, aide-moi à goûter, mon Dieu, ce qui est bien pour mon âme. Me plaire dans les choses qui sont bonnes pour mon âme. M'entourer des choses qui sont bonnes pour mon âme. Au moins, je dirais le minimum, c'est s'occuper de son... mettre autant de temps à s'occuper de notre âme que nous plaçons de temps à s'occuper de nos corps. Nous voyons le temps que les hommes modernes, les païens autour de nous, placent pour s'occuper de leur corps. Dès qu'ils ont la moindre petite blessure, le moindre petit bobo physique, tout de suite ils s'en occupent pour être sûr que leur corps est en bonne santé. Mais si nous placions la même énergie, si nous mettions la même énergie à nous occuper de notre âme, si nous mettions la même énergie à nous occuper de notre temps que nous passons à nous occuper de notre corps, nous le passions à nous occuper de notre âme, nous serions tous des saints plus longtemps. Et notre Saint Paul a une autre expression très forte. Il parle de ceux qui sont les ennemis de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il donne un exemple un peu trivial. Il dit, tous ceux, quels sont les ennemis de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ? Il dit, ce sont ceux qui font de leur ventre leur Dieu. C'est fort comme expression. Les ennemis de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ sont ceux qui font de leur ventre leur Dieu. Qu'est-ce que représente ce ventre? Il représente évidemment la concupiscence des yeux, la concupiscence de la chair. Nous sommes entourés, si vous voulez, de gens qui adorent leur corps, qui adorent leur ventre, qui adorent les concupiscences de la chair et les concupiscences des yeux, qui ne cherchent qu'à jouir de la vie terrestre d'ici-bas, qui oublient complètement que le bon Dieu nous appelle à jouir éternellement au ciel de sa vie spirituelle. Et donc, il faut demander au bon Dieu, justement, cette grâce de ne pas être, nous, des ennemis de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. La croix de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le centre de toute notre vie spirituelle, puisque toutes les grâces du bon Dieu viennent par la croix. C'est pour cela qu'au centre de toute la vie spirituelle dans l'Église catholique, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la messe. Parce que la messe n'est rien d'autre que le renouvellement non sanglant de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il faut assister à la Sainte Messe, je dirais, avec les mêmes sentiments qui devaient être, par exemple, dans l'âme de notre Sainte Vierge Marie, quand après la mort de notre Seigneur et son départ au ciel, le jour de l'Ascension, quand elle assistait tous les jours à la messe célébrée par l'apôtre Saint Jean. Comprendre, la messe, c'est la passion. La messe, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui me donne de nouveau son corps, son sang, son âme et sa divinité dans l'hostie consacrée que je vais recevoir à la Sainte Communion. Donc je nourris en quelque sorte mon âme spirituellement, comme je dois nourrir mon corps pour lui donner une force physique. Je dois nourrir mon âme aussi pour donner une force spirituelle. Et en faisant ça, justement, je vais devenir un ami de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc je pourrai rejeter toutes les tentations qu'ont les gens du monde de considérer leur ventre comme un dieu. Et je l'ai souvent dit, il y a trois choses qui me semblent caractériser le monde moderne, et on peut faire l'application justement à l'âme en état de péché mortel. Les trois choses qui caractérisent le monde moderne, me semble-t-il, c'est la tristesse, la saleté physique et la saleté morale. Donc une âme qui est en état de péché mortel, elle vit comme un cadavre. Donc on trouve les trois choses, la tristesse, la saleté physique, la saleté morale. Au contraire, une âme en état de grâce, ayant notre Seigneur Jésus-Christ en elle, va avoir le contraire de ces trois éléments. Au lieu de la tristesse, la joie et la paix. Au lieu de la saleté physique, une beauté, une propreté physique et une propreté spirituelle. Les deux choses vont ensemble. Quand on traverse ces grandes villes modernes, moi c'est ce qui me frappe le plus. Ces deux dernières semaines, j'ai fait presque plus de 4000 km en voiture, les différentes missions que j'assurais. Eh bien, on se rend compte dans ces villes modernes, la saleté physique qui est un symbole de cette saleté morale. Et donc nous, il faut avoir en nous, en notre âme, puisque nous sommes en état de grâce, et avoir cette beauté spirituelle, cette beauté, même cette propreté spirituelle, cette propreté physique, et aussi cette joie, pour s'opposer à la tristesse du monde moderne. Et donc posons-nous cette question, est-ce que justement après avoir reçu le Saint-Sacrement de l'autel, après avoir reçu la Sainte Communion au dimanche, est-ce que justement je mets dans mon cœur cette joie, cette propreté physique, cette propreté spirituelle? Je me rappelle une réflexion de Mgr Lefebvre qui nous disait que lorsqu'il était en mission dans les territoires d'Afrique, auprès des gens qui vivaient dans des conditions physiques misérables, dans les cases des différentes tribus dans la forêt tropicale du Gabon, eh bien, ils nous disaient, en rentrant dans une case, on pouvait tout de suite voir si on était dans une case d'un catholique ou une case d'un païen. Ils nous disaient, lorsqu'une famille devenait catholique, ça se voyait physiquement par la transformation physique de la case. Et quand on rentrait dans une case et qu'on voyait la saleté physique épouvantable de la case, on savait que nous étions dans une maison païenne. Elle disait au contraire, lorsqu'on rentrait dans une case de famille catholique, ça se voyait tout de suite dans la propreté de la case. Donc on voit bien que cette propreté physique correspond à une propreté morale. Notre Saint Thomas d'Aquin, il définit cette joie spirituelle, cette paix spirituelle qui doit régner dans une âme en état de grâce, il définit cette paix spirituelle, cette joie spirituelle comme la tranquillité de l'ordre. Belle définition de Saint Thomas. La tranquillité de l'ordre. L'ordre voulu par Dieu, ordre physique dans les éléments physiques, ordre spirituel dans les éléments spirituels. Et donc si la beauté dans un corps est traduite par une tranquillité de l'ordre, eh bien on peut dire que le contraire, dans le désordre physique qui entraîne un désordre spirituel très souvent, eh bien ce désordre, cette saleté physique, c'est non plus la tranquillité de l'ordre, mais la pagaille du désordre. La pagaille du désordre. Et bien de même qu'il y a une pagaille du désordre dans le monde moderne, physique, il doit y avoir dans notre âme, malheureusement, par l'introduction du péché mortel, un désordre invraisemblable. Imaginez une maison qui est toute ornée, qui est toute belle, qui est toute propre, et bien on vient maculer tout cet appartement de boue et d'ordures, littéralement, parce que justement, le démon vient prendre possession de cette maison. Et au contraire, lorsque le bon Dieu, par l'intermédiaire du prêtre, donne l'absolution, je vous pardonne tous vos péchés, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, allez en paix, ressuscitez d'entre les morts, puisque maintenant vous avez retrouvé la vie spirituelle, eh bien c'est comme, si vous voulez, un nettoyage en profondeur de l'âme qui retrouve sa blancheur, sa beauté immaculée, de l'âme en état de grâce, et de l'âme qui contient littéralement, comme un tabernacle vivant, qui va contenir le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur. Nous demandons ces grâces, mes bien chers frères, ces grâces qui sont tellement importantes, ces grâces pour garder en notre âme cette beauté, cette propreté physique et cette propreté morale, justement pour que nous puissions être dans le monde moderne qui nous entoure, pour que nous puissions être justement cette lumière du monde et ce sel de la terre. Le bon Dieu ne demande pas en tant que catholique d'être simplement catholique et vivre en état de grâce tranquillement pour nous. Il veut que nous soyons cette lumière du monde. Et c'est ce qu'ont été les disciples, c'est ce qu'ont été les apôtres. Nous sommes un peu, faut bien avouer les choses, nous sommes un peu dans la situation dans laquelle étaient les apôtres et les disciples au temps où ils ont été envoyés en mission. Les prêtres sont les successeurs des disciples, les apôtres, les évêques sont les successeurs des apôtres, et nous, et vous, les laïcs, ben vous êtes les successeurs de tous ces premiers catholiques qui ont dû justement manifester leur foi en la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, en la croix de notre Seigneur Jésus-Christ plantée sur l'autel dans un monde complètement pourri. Et ils ont converti le monde. Ils ont converti le monde. Alors, puisque ce monde est retombé dans un état de barbarie, on peut dire, eh bien, il nous faut reprendre les mêmes forces que le bon Dieu a données aux apôtres. Et si le bon Dieu a donné aux apôtres et aux premiers disciples, aux premiers chrétiens, en son temps, en leur temps, il a donné cette force pour qu'ils puissent être encore une fois, la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ, le sel de la terre, il nous donnera à nous aussi les mêmes forces, sinon il serait injuste. Le bon Dieu n'est pas injuste. Donc il est tenu de nous donner les grâces dont nous avons besoin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut jamais se décourager. Même si les choses sont de plus en plus difficiles pour nous, humainement parlant, le bon Dieu donne des grâces de lumière. Le bon Dieu donne les grâces de foi, d'espérance, de charité, pour que nous puissions justement devenir les amis de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ et goûter les choses qui sont bonnes pour notre âme. En demandant toutes ces grâces, par l'intermédiaire évidemment de la Très Sainte Vierge Marie, s'il y en a une qui a su justement goûter ces choses-là, c'est elle. Elle a passé ses 30 années de vie intime avec notre Seigneur Jésus-Christ dans la Sainte Famille. On voit bien que notre Seigneur Jésus-Christ a voulu d'abord, avant d'apporter la lumière dans le monde dans lequel il allait vivre en Palestine, eh bien notre Seigneur Jésus-Christ a voulu d'abord s'occuper de notre Sainte Vierge Marie. Il a passé 30 ans avec elle. Pas simplement notre Sainte Vierge Marie, mais aussi Saint Joseph. Imaginez le calme, la beauté extraordinaire, la propreté morale et physique qui devait régner dans la maison de Nazareth, une maison avec tout et dans laquelle tout était centré sur notre Seigneur Jésus-Christ. En demandant à notre Seigneur Jésus-Marie de nous aider justement à toujours garder notre cœur, notre âme bien pure, pour que nous puissions être des dignes ministres de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.